la destruction de lignages, comme vous l'avez appelé, c'est un peu ce qui se passe dans nos sociétés avec nos espaces verts qui sont de plus en plus menacés. Est-ce que vous oserez une conclusion de ce type-là?
C'est-à-dire, bon, moi, j'ai la chance quand même de travailler avec des collègues qui sont du domaine des sciences de la nature, je dirais. Mais c'est vrai que je vois plutôt de l'analyse de ces phénomènes du côté des sociétés. Alors, on sait chez nous, par exemple, qu'il y a eu ce que tout le monde ici, sauf les plus jeunes, mais il n'y en a pas beaucoup, ce que tout le monde ici a connu dans les campagnes, chez nous, les phénomènes de remembrement, donc de regroupement des parcelles pour une meilleure rentabilité. Donc on a viré tout ce qui était les haies, les bosquets, les choses comme ça. Et puis maintenant, on est en train de les remettre parce qu'on s'est rendu compte que ça a un impact sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, etc. Donc effectivement, et en France, c'est pareil. C'est quasiment l'éclatement des lignages, ou en tout cas la transmission du patrimoine foncier liés à des phénomènes de cadastrage qui ont fait que ça a eu un impact sur la façon dont les sociétés avaient construit leur propre paysage. Je crois qu'il n'y a qu'une région, parce que je sais, j'ai une collègue qui travaille, il n'y a que le sud-ouest de la France où on a réussi à conserver ces territoires, où vous avez à l'ensemble, donc vous avez la maison, Il faut s'imaginer un grand territoire, et à l'intérieur du territoire, vous avez absolument tout pour être autonome. C'est-à-dire des zones qu'on peut mettre en culture, des zones de bois, des zones, une rivière pour la pêche, etc. etc. Et il n'y avait pas du tout de transmission, d'éclatement du foncier. La propriété foncière, l'ensemble de la propriété revenait au fils aîné. Après, les autres, bon, pas de chance, il fallait qu'ils se débrouillent, mais c'est une des seules régions de France où on a réussi à conserver ça dans... de la région du Béarn, tout ça, et ça fonctionne encore très très bien. Mais c'est vrai que, bon, chez nous, effectivement, pendant longtemps, jusqu'au milieu des années 70, même plus loin, au milieu des années 80, l'humain ne faisait pas partie de la biodiversité. Quand on parlait de biodiversité, l'humain était l'élément extérieur ou l'élément perturbateur, si on veut, alors que c'est intimement lié et que les sociétés, où qu'elles soient, à Madagascar ou dans l'arrière-pays de Marseille, ont œuvré énormément à la construction des territoires, des espaces, Bon, les gens font pas n'importe quoi, quoi. Enfin, bon, il y a des contraintes, effectivement, liées au climat, liées au milieu, liées aux activités. Mais les rapports sociaux, les fêtes qu'on faisait à l'époque, des prémices ici, ou qu'on essaye de réhabiliter maladroitement un peu partout, bon, c'était important, c'était structurant socialement, mais ça permettait aussi de conserver effectivement un certain type d'aménagement du territoire qui n'était pas du tout fortuit et qui était très efficace. Donc oui, je pense qu'effectivement...
Je pense qu'il faudrait quand même nuancer un petit peu, car du point de vue biologique, aujourd'hui, tout au moins dans notre région, la nature va beaucoup mieux qu'autrefois, beaucoup mieux. Et l'action de l'homme a été dictée par la nécessité, assez souvent par la cupidité, mais bon, par la nécessité. Et on avait des territoires qui étaient quand même très, très abîmés. Alors, un des exemples, par exemple, c'est le Mont Ventoux, qui était un tas de pierres et qui a été entièrement reboisé à partir du milieu du 19e siècle. Donc, je pense qu'on peut regarder les choses du côté de l'homme, effectivement. Mais pour le biologiste, l'homme est un perturbateur. Et pour ce qui est de Madagascar, vous disiez que la biodiversité, bon, décliner rapidement, mais ce n'est pas un phénomène nouveau, parce que cette île, finalement, est occupée par l'homme agriculteur et pasteur depuis peu de temps, à peine 1500 ans. En 1500 ans, elle a été dévastée. Et en 1927, le naturaliste Humbert a écrit un bouquin, Une flore insulaire détruite par le feu. Donc déjà, le phénomène existait, il était important.
Oui, non, mais c'est. Je ne nie pas que les Malgaches Alors c'est toujours pareil, hein, c'est ce que j'évoquais au début, c'est qu'on a la représentation ou ce que les gens disent de ce qu'ils font de leur milieu, et ensuite la réalité. Alors c'est vrai que vers chez moi, c'est le... sur les forêts aussi du Mont Lozère ou par là, sont très récentes. Toutes ces choses-là. Alors on sait, effectivement, l'humain est perturbateur, mais l'humain est aussi lui-même créateur de biodiversité. On en doute, oui, non, mais... alors bon, c'est un petit peu les mêmes controverses que Madagascar, l'île rouge ou l'île verte. Non, mais enfin, je ne sais pas, il y a des forêts peut-être où la main de l'homme n'a jamais mis le pied qui ont peut-être des taux, enfin, moins de biodiversité que des forêts où les hommes évoluent depuis un certain temps, où ils ont replanté des choses, où ils ont aménagé d'autres choses, etc. etc. Alors je sais, ça...
Que c'était dans les forêts... par exemple en Amazonie, où il y avait une biodiversité maximale et qui était totalement inconnue. Alors il y a des gens, bien sûr, vous avez quelques, disons, fondamentalistes ou intégristes de l'écologie qui se passionnent, par exemple, pour les orchidées. Alors bien sûr, dans les milieux ouverts, il y a plus d'orchidées que sous les forêts. Donc ils vont proclamer haut et fort que les milieux ouverts, c'est plus important que les milieux forestiers. Mais la biodiversité... c'est la biocénose dans son ensemble, du sommet de l'arbre jusqu'aux racines dans le sol. Et là, il n'y a pas photo. Dans une forêt, il y a beaucoup plus de diversité animale et végétale que dans les milieux ouverts.
Oui, mais enfin bon, il y a même la forêt amazonienne, elle a été parcourue dans beaucoup de sens par des groupes.
Ah, mais de toute façon, je ne pense pas petit, que sur la planète, il y ait un seul endroit qui n'est pas affecté par l'homme. Ça, c'est certain, à divers degrés, bien entendu.
Et les gens ont des activités, enfin, ont un rôle dans les changements, ou en tout cas dans les. Enfin, moi, je voyais en Asie du Sud-Est. Je connais assez mal l'Amérique latine, mais en Asie du Sud-Est, moi, je voyais les gens qui replantent dans les jachères. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de légitimer le foncier, parce que si je plante rien, ben on va me piquer mon champ dans 2 ou 3 ans. Mais ils plantent des espèces utiles pour la maison, mais aussi des choses qu'ils vont ramasser en forêt, qu'ils vont mettre ailleurs. Donc ça aussi, enfin, je ne suis pas dans les sciences de la nature, mais je sais que j'ai plusieurs collègues écologues, donc qui travaillent peut-être très étroitement avec les sciences sociales, mais qui disent effectivement qu'il y a un rôle, même à Madagascar, de l'humain dans la biodiversité, mais pas nécessairement, qui n'est pas toujours nécessairement par une qui se reflète pas dans une disparition fatale, quoi, en tout cas extrême. Et je sais pas, mais moi je sais que les gens parle de forêts secondaires avec une biodiversité supérieure à certaines forêts primaires. Alors, ça dépend ce qu'on compare après. Hein. Mais même Francis, que je côtoie et que je connais assez bien, est relativement pondéré sur ce thème-là. Enfin, c'est toujours un thème délicat. C'est vrai que l'humain est celui qui va effectivement couper la forêt et foutre le feu. Mais il a aussi un rôle, je pense, dans la biodiversité, en tout cas dans les zones... qui sont moins dégradés que d'autres et où certaines structures, alors pour les sociétés sur lesquelles je travaille, mais chez nous, c'est vrai que maintenant il y a plus une prise en compte de l'importance de maintenir un environnement diversifié et du rôle de l'homme plutôt positif qu'effectivement la cupidité que vous évoquiez tout à l'heure qui est celle qu'on voit le plus souvent.
Oui, je voulais vous poser plusieurs questions. Deux. D'accord. Oui, non, mais ça va être. Elles sont courtes. Est-ce qu'il y a des évangélistes dans ces villages dont vous nous avez parlé, avec ces nouveaux migrants là-dedans ? Est-ce que les évangélistes sont arrivés parmi eux ? La deuxième. Est-ce que cette déstructuration de la société et restructuration, elle a une incidence sur la politique nationale ? malgaches. Est-ce qu'on peut expliquer par des choses comme ça, un peu partout ailleurs, sur le fait que la société malgache, enfin, il n'y a pas un État malgache bien organisé, ce qui n'est pas. Et enfin, est-ce qu'au Laos, ce sont des tribus Hmong qui plantent de l'EVA pour les Chinois ou d'autres ethnies?
Alors, bon, pour ce qui concerne le rôle des évangélistes, alors, Madagascar, d'une manière générale, la colonisation française a fait que les premiers missionnaires qui sont venus étaient plutôt des missionnaires catholiques qui venaient de la région de Lourdes. Ce qui fait qu'à Madagascar, on peut trouver du foie gras et pas mal de choses qui viennent de notre terroir, et que le sport de rue là-bas est le rugby et non pas le football. Donc il y a une très forte influence du sud-ouest de la France à Madagascar. Ensuite, effectivement, plus récemment, vous avez des mouvements évangélistes, mais pas du tout dans la région où j'ai travaillé, là, pas du tout dans cette région-là. Par contre, on peut faire une différence assez nette entre les régions où, sous influence du catholicisme, et puis les régions où il y a eu nos amis anglophones protestants. Et on le voit très vite dans la façon dont les gens se relationnent à vous par la suite. Votre deuxième question, d'une manière générale, à Madagascar, il y a un accord tacite pour que le président de la République soit quelqu'un originaire de la côte et le Premier ministre quelqu'un des hautes terres, pour maintenir toujours cette complémentarité réelle ou supposée, je ne sais pas, ou fantasmée. Très récemment, ça a pas mal changé. Et puis maintenant, moi, je ne suis plus tellement les affaires de Madagascar, mais disons que ce qui se passe au fin fond des villages du sud-ouest de Madagascar importe peu les gens du gouvernement. En ce qui concerne le Laos, les Hmongs sont malheureusement pas très bien vus au Laos. Vous devez savoir pourquoi. En tout cas, pour les gens qui ne savent pas, c'est pour le rôle qu'ils ont joué pendant la guerre du Vietnam, où ils ont vraiment pris le côté des Américains et ils s'étaient déjà révoltés contre les Français dans les années 20. Donc c'est plutôt des gens fiers, combattants et qui assument. Mais bon, il y a autant de Hmong qui étaient, on parle de ceux qui étaient du côté des Américains, mais il y avait autant de Hmong apparemment du côté du Pathet Lao. Moi, je ne connais pas ça en détail. Le problème, c'est que les Hmong ne sont pas leur langue n'est pas une langue d'origine chinoise. Par contre, les Chinois, parce que ce sont eux hein, qui poussent pour la culture de l'EVA, ils s'appuient soit sur des groupes qui s'appellent les Lolopo, des groupes d'origine chinoise, ou les Hakka. Le problème, c'est que les gens, effectivement, ils signent un contrat où ils voient qu'on va leur... Ils ont souvent les problèmes, ce qu'on appelle la période de soudure. Hein, pendant 2-3 mois de l'année, ils n'ont pas de riz à donner à leur famille. Et puis là, on leur dit, ben voilà, pendant 25 ans, je vais t'acheter toute ta production. Donc les gens, ils disent, bingo, quoi, j'ai gagné. Donc ils signent et puis ils plantent sur leurs essarts où avant ils faisaient du riz pluvial, ils vont planter les EVA. La première année, ça va aller. La deuxième année, ça va aller. La troisième année, l'ombre de l'arbre va faire que ben, on n'aura plus de riz. Donc le riz, je vais le planter ailleurs. Donc on va continuer à... On va soit déforester de nouvelles zones, soit entrer en conflit foncier avec les gens d'à côté. Et puis ben, on sait très bien ensuite le phénomène. C'est que l'EVA, on va l'acheter très peu cher, puisque 2 ou 3 km après la frontière chinoise, là, il y a une usine qui traite l'EVA et qui le revend à un prix beaucoup plus important. Et puis ben, petit à petit, les Chinois arrivent à racheter des terres, ce qui n'est pas autorisé normalement au Laos, c'est pas autorisé pour un étranger d'acheter de la terre. Mais les Chinois ont réussi avec des prête-noms à agrandir les territoires. Et bon, et parfois, il y a même la Malaisie, aussi la Thaïlande, achètent des grandes concessions pour faire de l'EVA, mais c'est simplement pour déforester, exploiter le bois d'œuvre et on replante rien du tout. Voilà. Donc l'EVA est le... Et l'autre gros fléau dans la région, c'est le palmier à huile. Hein, et tout ce qui est pour les agrocarburants, c'est un peu catastrophique. C'est même très catastrophique ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas qui est le...
S'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Monsanto a rendu des populations dépendantes d'un maïs qu'on ne peut pas replanter et dont ils refournissent les semences. Est-ce que Madagascar a été touché? C'est terrible pour les populations à qui ça arrive. Ça.
Alors, moi, à l'époque où j'y étais, en tout cas, je peux vous dire que les gens n'avaient sûrement pas les moyens d'acheter des semences et pas du tout les moyens non plus de mettre des engrais, donc, sauf ceux qui faisaient du coton. Donc le maïs, c'était du maïs que les gens s'échangeaient entre eux. Ils s'échangeaient des semences et des collègues agronomes qui ont travaillé ont retrouvé des anciennes, enfin des variétés archaïques dont on pensait qu'elles avaient disparu. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant quand les gens, et on voit ça au Laos, hein, je reparle un peu du Laos, mais il y a une variété dans les semences utilisées par les gens qui est extraordinaire, et les échanges sur les marchés locaux sont vraiment très importants en ce qui concerne justement le maintien d'une certaine production. On sait où on va planter, ce que ça va donner ici, etc., etc.
Également, au point de vue population, vous n'avez pas parlé, je crois, des massacres de Comoriens qui ont eu lieu dans les années 70-80, par là.
C'est à Madagascar, ouais, à l'époque avec les Malgaches. Oui, oui, bah, il y a eu des répressions. Bon, la première répression qu'on connaît, c'est celle de 47. La France avec vis-à-vis des populations malgaches. Et puis ensuite, il y a eu effectivement pas mal des épisodes chaotiques de l'histoire de Madagascar. Oui.
D'après ce que j'ai compris, de votre expérience sur Madagascar, vous l'aviez situé entre 1994 et 1998, tout en étant revenu ensuite plusieurs fois sur Madagascar. Aujourd'hui, je pense que Madagascar se trouve dans une situation un peu particulière depuis 2 ans et demi avec le bouleversement politique que l'on connaît. Est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui pour des instituts comme celui avec lequel vous coopérez de, je dis pas d'encadrer, mais de déterminer la déforestation qui doit être encore plus anarchique et plus ravageante sur le territoire?
Oui, ben c'est Madagascar n'est pas le seul pays où l'aide internationale a été suspendue, hein, parce que malgré tout l'argent qu'on donne, on voit, chiffre à l'appui, que la déforestation continue, voire s'amplifie, et que l'argent n'arrive jamais où il devrait arriver, c'est-à-dire dans les villages. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. La recherche en coopération avec l'IRD, on a un assez important volet de formation maintenant, donc on essaye plutôt de former des jeunes collègues de Madagascar au niveau, on va dire, master et puis doctorat. Moi, je ne suis pas retourné depuis 2 ans là, à Madagascar. On contourne un petit peu quand les sujets sont un petit peu trop délicats à aborder pour des raisons politiques. Par exemple, quand je suis arrivé au Laos, il n'y avait pas du tout de département d'anthropologie à l'université. J'ai continué à le créer parce que pour eux, l'anthropologie, c'est quelque chose qui allait forcément créer beaucoup de problèmes. Peut-être que ça en crée d'ailleurs, mais donc on a essayé de travailler sur l'histoire du développement, de dire que ben voilà, si on arrive à mieux comprendre comment les gens se comportent, ça peut aider pour le développement. Donc les choses sur lesquelles on travaille plus à Madagascar maintenant, sur lesquelles des collègues travaillent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les corridors, le rôle des populations locales dans la gestion des corridors. Et puis il y a eu des expériences qui ont été faites notamment par les collègues du CIRAD et puis des ONG qui s'appellent... C'est un programme qui s'appelait GELO, je crois, gestion locale sécurisée des ressources, c'est-à-dire qu'on garantissait, c'est un peu comme pour les paiements pour services environnementaux, on garantissait un accès ou une reconnaissance de la propriété foncière à certaines populations en échange d'une gestion qualifiée de durable de leurs ressources. Donc effectivement, le problème, c'est qu'on entre en conflit direct avec les personnages importants, soit de la société, soit du pouvoir administratif local. Donc c'est aussi délicat à gérer. Donc dans ces cas-là, on laisse faire nos partenaires du pays qui sont souvent qui savent plutôt comment aborder la chose. Mais c'est vrai que c'est délicat, mais on commence à voir des générations de jeunes chercheurs malgaches qui sont réellement impliqués et puis la diaspora aussi qui est partie pendant un certain temps, qui revient. Beaucoup maintenant, celles formées aux États-Unis avec le nouveau président. Donc, mais je vous dis, je suis pas trop au fait de ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Monsieur qui attendait depuis longtemps. On va avoir le temps d'une dernière question. Donc.
D'accord.
Oui, vous nous disiez que l'homme est élément et acteur de biodiversité. Et pour parler du Laos, effectivement, quand on monte au nord vers Luang Nam Ha, quand près de 100 km avant d'arriver, on ne voit plus que de l'EVA, je veux dire, on se dit que l'homme est vraiment créateur d'uniformité. Et là, la biodiversité, on se demande où elle est. Oui, elle est dans le parc national de Nam Ha, qui est classé, je crois, réserve la biosphère. Bon. Et les plantations d'EVA viennent buter sur le parc. Elles viennent jusque-là. On voit le même phénomène au Cameroun, avec les plantations de palmiers à huile le long de la frontière du Nigeria. Pareil, où on a une forêt qui est sans doute une des plus vieilles forêts primaires africaines, qui est vraiment absolument splendide, le parc de Korup. Et dès qu'on a passé la rivière, enfin le pont suspendu qui permet d'accéder à la réserve, je crois que c'est la Mara, on tombe sur les plantations de palmiers à huile. Donc l'homme est certainement un acteur de biodiversité, mais malheureusement là, ce sont des déserts verts. C'est le contraire de la biodiversité à laquelle on assiste. Et je voulais vous poser une question sur Madagascar aussi. Vous avez parlé de la relation qu'ont ces ethnies avec la forêt, mais vous nous avez beaucoup parlé d'éleveurs. Alors, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec les Peuls en Afrique occidentale, mais ces gens, je pense, n'ont pas vraiment... Enfin, est-ce qu'ils ont une culture forestière? Est-ce que vous avez relevé des différences importantes entre ces éleveurs de zébus et, par exemple, les Betsimisark de la côte, qui, eux, sont vraiment des gens de la forêt?
Oui, alors, c'est ce que je disais tout au début de mon intervention, c'est que sur la côte ouest de Madagascar, en dehors d'une population qu'on appelle les Mikéa, mais qui est une population... fabriqués, c'est-à-dire que ce sont très souvent des parias de différents groupes ethniques qui vivent un peu isolés en forêt. Sur effectivement la côte est, vous avez les Betsimisark, les Tanal, qui sont effectivement, elles, des populations forestières qui vivent depuis longtemps des ressources de la forêt et, j'oserais pas dire en symbiose, mais en tout cas avec une gestion collective sur une durée plus longue que les populations de la côte ouest, mais sur la côte ouest, non. La forêt, c'était vraiment l'endroit dangereux où on ne mettait pas les pieds, où on laissait s'installer les ennemis, etc. Et c'est des phénomènes très récents. C'est pour ça que là, on est. Ce qui est passionnant en sciences sociales, quand on tombe malheureusement sur des crises sociales et environnementales comme ça, c'est qu'on est comme un chimiste qui mélange des éléments. Parce que là, il y a des éprouvettes et il se passe des choses. Donc on voit vraiment en temps réel comment les sociétés réagissent. Et pour ce qui concerne votre constat, effectivement, sur l'EVA et le palmier à huile, oui, mais je crois que c'est parce qu'on ne parle pas tout à fait du même homme. Pour moi, quand je parle des hommes, je fais souvent référence à des petites sociétés qui vivent plus en harmonie, ou en tout cas prétendent vivre en harmonie avec le milieu, qui sont parfois contraintes de détruire ce milieu pour tout un tas de raisons. Et des représentants de ces populations, d'ailleurs, je suis un des co-organisateurs d'un congrès de la Société internationale d'ethnobiologie qui se tiendra à Montpellier au mois de mai 2012, entre le 20 et le 25 mai. Et nous aurons des représentants de populations autochtones, donc il y aura des Pygmées, des Punan d'Indonésie, il y aura des Maasai, il y aura pas mal de gens comme ça, parce qu'ils font un forum des populations indigènes avant d'aller au G20. Enfin, avant Rio plus 20, pardon, excusez-moi.
Parce que ces ethnies sont en train d'être laminées par l'extension des monocultures.
Oui, je sais bien. Ah oui, non, mais c'est catastrophique, parce que eux sont en première ligne en ce qui concerne leurs ressources alimentaires et puis toutes les ressources forestières aussi.
Oui, et ça rejoint un peu ce que vous disiez à propos, parce qu'il y a toujours ce débat entre forêts primaires, etc. C'est vrai que l'homme est allé partout, on a retrouvé des traces de présence humaine partout, mais on ne peut pas mettre au même niveau les prélèvements vraiment homéopathiques que faisaient les peuples anciens en forêt avec l'exploitation de type industriel. L'homme a toujours coupé du bois, etc. Mais c'était vraiment... Alors effectivement, il était acteur dans la biodiversité, mais il y a une telle différence entre ce type de prélèvement et les coupes systématiques, les coupes à blanc, les monocultures, je veux dire que la différence est énorme.
Le pire, c'est que le gouvernement laotien, maintenant, pour continuer à avoir des fonds, notamment de la coopération danoise, qui est un des principaux acteurs là-bas, comptabilise les plantations comme de la forêt.
Problème FAO. Ah. Oui. Problème de la notion de forêt.
Exactement.
Selon la FAO.
Je vous en prie.
Portes, c'est-à-dire les massifs forestiers, eux aussi, malheureusement, ça, dès sa souvent incendiés, qui sont ceux de la région PACA. Est-ce qu'il y a des ethnobiologistes pour nous aider à comprendre comment évolue l'aménagement ou le ravage de ces territoires, et peut-être aussi pour donner des arguments aux citoyens qui